Meow.
Oh putain, tu fais super bien le chef.
Merci.
Alors mon con, t'avais encore la tête dans le fond de ton cul, hein?
Sarah Connor.
C'est à côté.
Sarah Connor.
Oui.
Tu sais ce qu'ils mettent sur les frites en lande au lieu du ketchup?
Non, quoi.
La mayonnaise.
Les salauds.
Fais-toi un goût de pomme.
Il y en a.
Oh merde.
Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
Il n'y a pas seulement que de la pomme, il y a autre chose. Ça serait pas des fois de la betterave?
Oui, Londres. Vous allez bien? Fish, chips, tasse de thé, bouffe dégueu, tant de merde, Mary Poppins de mes deux, Londres.
Et vous ne rêvez pas à vous halluciner.
Parce que c'est de la radio, mais ça se voit quand même. Et ouais, on va vous se rendre compte qu'un homme de classe cherche la rédemption après la terre parce qu'il court après sa demi-sœur dans son cortex.
Ouais, exactement ça, tout en jouant de la guitare électrique.
Voilà, en jouant de la guitare électrique.
S'il est au minus. Oh, quel joli résumé. Alors,
je pouvais pas faire mieux, hein, j'étais un chou en forme.
Ça annonce quoi? Bien alors, ça annonce tout d'abord The Iceman avec Michael Shannon, James Franco et Ray Liotta.
Mais qui est The Iceman?
Qui revient au business. Alors oui, avant de vous parler du film, parler justement de la, parce que c'est basé sur une histoire vraie. Alors ensuite, ça a été plus ou moins adapté. On va dire que c'est très romancé quoi, par rapport à l'histoire vraie du tueur quoi. Donc il travaillait dans les de 60 à 80 pour les différentes mafias qui avaient à New York. Donc surtout les grandes familles siciliennes new-yorkaises. Donc Richard Kuklinski, excusez-moi, c'était un Polonais. Et qui a durant, donc, apparemment, officiellement, tué 100 personnes durant ce temps-là. Bon, enfin, en même temps, vous me direz, c'était une période de 10 ans, il a tué 100 personnes, ça fait 10 personnes par an. Bon, ça va, ça va, ça va. Et donc, c'est inspiré de son histoire à lui. Donc, dans le film, on le montre père de famille très attentionné, époux attentif. Vraiment quelqu'un qui ne montre pas qu'il est un tueur la nuit, quoi. Qu'il est vraiment violent, au contraire, un mec... Enfin, vous lui confierez vos enfants, quoi. Comme on peut avoir d'ailleurs des cas en France entre les gens qui torturent leurs enfants, où on fait pas gaffe à ses voisins. Mais là, c'est pareil, sauf que lui, c'est un tueur. Voilà. Et dans l'histoire vraie, il était quand même un petit peu plus violent que ça, quand même. Il battait ses enfants, il était alcoolique et il battait sa femme. Mais ça, bon, voilà, on s'en fout. Mais c'est juste pour dire que c'était adapté d'une histoire vraie et que le film, du coup, en lui-même, il nous donne un bon polar. Franchement, un bon petit polar, bien noir, bien nuancé, des personnages, tu vois, qui se retiennent, quoi. Avec un Ray Liotta, ça fait plaisir de le revoir, tu verrais sa gueule, là, franchement. Ouais, certes, il a vieilli, mais maintenant, il a vraiment la gueule de l'emploi du mafieux, quoi, tu vois. Franchement, là, il est vraiment dedans, quoi.
Mais il y a un truc qui me fait tilter dans ce que tu viens de me dire. Comment ça se fait qu'un personnage aussi cruel que lui soit porté au cinéma avec la facette de l'homme, du père de famille bien, alors que dans la réalité, c'était un vrai salaud? Ils veulent le rendre humain?
Peut-être le rendre humain, je sais pas, mais en tout cas, ça lui donne un côté, si tu veux, ça joue plus du coup sur le contrepoint, si tu veux. On a moins l'impression, tu vois, de suivre un salaud, et c'est un salaud, tu vois, on se pose plus la question. Oui, c'est un tueur, d'accord, il fait ça pour vivre, c'est son métier, il fait ça d'ailleurs très froidement, de manière très méthodique.
C'est pour ça qu'on l'appelle l'homme de glace.
D'ailleurs. Voilà, exactement, avec un sang-froid impressionnant, et en même temps, on le voit justement avec sa famille, tu vois, un petit peu plus humain, plus ouvert. Donc ça, je pense que c'était plus pour le servir au niveau du film, quoi. Non, franchement, bon polar. Non, un très très bon polar. Allez le voir, quoi. C'est comme si vous alliez voir un Olivier Marchal, vous voyez.
Bon polar.
Mais en beaucoup mieux.
Oui, bon, c'est quand même nettement supérieur à un 36 Quai des Orfèvres.
Oui, certes,
ou à
certes,
73,
certes. Mais hein. c'est différent. Aussi sympa. C'est juste que c'est un petit peu plus violent en fait que Olivier Marchal. Mais c'est pas non plus sanglant. Allez le voir.
Voilà. Pour passer vraiment du Coca Light complet, moi je vais vous parler de rock, de pop. Comment ça va des rétros Satanas? Non, que dalle, que dalle. Je vais vous parler de Pop Redemption. Alors, la Pop Redemption, c'est une forme de road movie avec Julien Doré et d'autres acteurs qu'on aime beaucoup, notamment Grégory Gadebois. Alors, c'est très simple.
Mais oui, Grégory Gadebois, bien sûr.
Voilà. Mais oui, parce qu'il joue énormément de rôles secondaires dans des comédies. Ah. Alors, Pop Redemption, déjà, moi, l'affiche, elle m'a fait délirer quand je l'ai dépliée au cinéma, à voir cette... Alors déjà, la référence à Kiss... La référence aussi à Woodstock, la référence à leur manière de marcher, de traverser la route comme dans l'album bah, d'Abbey Road.
Voilà. Référence, ouais, voilà, aux Beatles et à Woodstock. Quoi,
parce tout est ultra référencé. Alors, qu'est-ce qui va arriver à nos quatre Lascars? C'est-à-dire que chaque été, depuis leur adolescence, ils s'appellent les Dead Maccabees. Donc, leur groupe s'appelle les Dead Maccabees.
Groupe punk rock.
Voilà, ce paie ce qu'ils Sortie appellent une tournée d'été. C'est-à-dire ils vont se faire tous les festivals, tous les concerts d'été de fond en comble pour toute l'Europe. Le problème, c'est que voilà, il va leur arriver des couilles et pas que.
Mort au travail, mort au confort et mort au bon sentiment.
C'est pas du rock satanique, c'est du black metal.
Le Hellfest.
Ils m'ont appelé. Ils nous veulent.
Non mais attends, comment?
Il y a eu un désistement, mais on s'en branle.
On n'est pas prêt pour un truc aussi gros.
Stop.
Il est 18h, la...
Merde, la babysitter.
Je sens que cette tournée, ça va être un cauchemar, donc.
On va se faire une petite date d'échauffement, histoire de retrouver un peu de cohésion.
Y a un souci?
Sans malfaisine.
Monsieur?
Oh putain, il est mort.
Tu vas expliquer ça aux flics?
Oui, c'est ça, comme des vampires.
Alors qu'il est, même s'ils ont roulé à 60, les vampires pourraient se trouver au Portugal.
C'est pas faux.
On trouve une solution pour se barrer d'ici, discretos.
Mais quelle bande d'enfoirés!
J'aurais pu les attacher!
4. Habillé en noir, genre rocker.
Alors on a braqué le van des Scooby-Doo.
Ils ont braqué le van de Scooby-Doo.
Scooby-Doo, where
donc,
are you?
Voilà, c'est ultra léger, c'est ultra second degré, très référencé.
Moi, je trouve que c'est un très bon road movie, pas toi?
Ben, disons que oui, c'est un très bon road movie, mais la particularité, en fait, c'est qu'il va très vite le premier quart d'heure pour planter les personnages et la situation. Et après, hop, ça repart, tranquillou, sur le road movie tranquille. Et j'ai même trouvé quelques références à Comme des frères.
Oui, voilà, c'était
pas
fois,
un,
ouais.
Un road movie.
Moi, j'aime bien justement ce côté, tu vois, ce côté un peu décalé, absurde, un peu, tu vois, comme je te disais, à la Grégoire Moulin versus l'humanité, quoi, tu vois.
Voilà, oui, c'est-à-dire, alors, qui ne connaît pas, c'est pas
oui, bah, allez le voir.
C'est pas.
Non, mais voyez-le, voilà, je vous cite une référence, vous le voyez, puis c'est tout.
Il s'appelle pas Grégoire Moulin, je me souviens plus de son
nom. Si, vrai, c'est ça,
c'est prénom. C'est Grégoire Moulin contre l'humanité, en fait, c'est la part, c'est, comment dire, ça suit un personnage dans Paris qui va avoir des couilles tellement absurdes que c'est voilà, c'est ça devient super marrant. C'est entre le l'Albert Dupontel trash et voilà ce genre de comédie un peu plus gentillette. C'est-à-dire que ça commence tellement qu'à la fin ça explose. On se doute pas que ça parte autant en couille. Donc c'est la particularité de Pop Redemption. Et j'ai envie quand même de tirer mon chapeau à Julien Doré qui commence doucement mais sûrement au cinéma dans ses interprétations.
Non, on va dire qu'il choisit ses films et on va dire qu'il les choisit bien. Il fait pas n'importe quoi. C'est surtout ça qui est intéressant avec lui.
C'est son troisième film, parce qu'il avait commencé avec Guillaume Gallienne de la Comédie.
Et puis
française.
J'ai envie de dire, allez voir Pop Redemption si vous êtes justement nostalgique cette période rock, surtout en ce moment où il faut qu'on se tienne tous les coudes et les mains et les genoux et les orteils, parce que bon, bah, un des grands piliers du thrash metal est mort récemment, Jeff Hammerman, qui est mort à 49 ans, donc bah, l'un des fondateurs de Slayer, donc Slayer, l'un des groupes fondateurs et Megadeth et Metallica du thrash metal au début des années 80. Donc un hommage à toi, Jeff, nous te passons Raining Blood.
Thank you.
Non, ce n'est pas du bruit. Oui, c'était peut-être un petit peu violent. Sur CFM, les hallucinés, c'était du 120 par minute sur la noire.
Voilà. Et c'est le vrai programme musical de CFM.
Oui, merde. Ça, voilà. Voilà. Ça, voilà. C'est du rock. Ça, c'est, voilà, pas du,
on l'a
du
fait passer notre petite pub. Non, on nous virait pas. Non, non, on entend dans l'oreillette le grand directeur en train de nous dire qu'on va se faire virer. Non, on ne partira pas.
Ah, bon, par contre, allez,
on va quitter la Terre. Hein,
voilà, c'est ça, on va faire Ground Control to Metatron. After Earth avec Will Smith, avec Jaden Smith, produit par Will Smith et Jada Pinkett Smith, parce qu'il y a tous les Smiths dans ce... Tous les Smiths de la Terre, ils l'ont foutu dans son
et
film.
Les agents Smith de Matrix aussi.
Ouais, ils sont là, les deux, et les deux Smiths, les Smiths et Wesson.
Ah, j'aime bien les Smiths et Wesson, ils ont un joli canon les deux.
Et alors, c'est, alors franchement, je vais vous résumer, le scénario, il est tout con. Hein. Alors vous avez deux mecs, un père et son fils, ils sont dans un vaisseau qui a quitté la Terre il y a super méga longtemps, et ils se crachent sur une planète, et c'est la Terre. Et bonne annonce.
On a atterri en catastrophe. Deux survivants confirmés. Fils, on n'est pas à l'entraînement. C'est une planète en quarantaine de classe 1. Les menaces que nous aurons à affronter sont réelles. Tout sur cette planète a évolué pour tuer l'homme. La moindre de nos décisions conduira à la vie ou la mort. Si nous voulons survivre, tu dois te souvenir d'une chose. La peur n'est pas réelle. C'est une production intellectuelle, le fruit de ton imagination. Attention, comprends-moi bien. Le danger est bien réel. Mais avoir peur est un choix. Est-ce que tu sais où on est?
Non, monsieur.
C'est la Terre.
Oh non! Dis-moi pas que c'est pas vrai! Ah, tu te rends compte?
La Terre?
Ouais, ça fait comme dans la planète des singes, sauf que du coup on le sait avant. Merde, ça fait un peu chier ça.
La Terre?
Ouais, la Terre. Terre!
Mais c'est où ça, la Terre?
Terre! C'est dans le coin, 36e porte après l'univers.
C'est une porte proche de...
Donc oui, donc ce sont... Voilà, donc ce sont des colons qui, après avoir quitté la Terre il y a des générations parce qu'il avait trop plu, etc., etc., c'était plus vivable, donc ils sont partis. Donc ils repassent par-dessus la Terre, ils se crashent, et le seul moyen, si vous voulez, c'est du coup de récupérer des batteries pour pouvoir qu'ils se barrent, enfin surtout faire un appel à l'aide, quoi, en gros. Sauf que du coup, pendant ce temps-là, Will Smith, lui, il est blessé, il est coincé sur une montagne, donc il envoie son fils, Jaden, faire tout le boulot à sa place. Donc si vous voulez, c'est un film, en fait, Night Shyamalan, parce que du coup, c'est le grand retour de Night Shyamalan.
Non, on peut pas appeler ça un grand retour après toutes les casseroles qu'il s'est tapé, parce qu'il faut quand même savoir qu'il détient la palme du plus mauvais film en 3D avec Avatar, le maître de l'air. Merci.
Ouais, ça c'est pas faux, ça c'est pas faux. Pour l'avoir vu, c'est vrai qu'il sert à rien, il est à chier. Mais voilà, du coup, quand même grand retour, parce que c'est son premier film, ça passe plutôt bien, tu vois. Parce que là, il fait pas d'actrice scénaristique à deux balles, etc., etc. Là, il joue plus sur la relation du coup père-fils, et ce qui du coup transpait parfaitement, parce que du coup, Will Smith est le père de Jaden Smith. Et ce qu'il fait en ce moment, justement, pour son fils Jaden, au niveau du cinéma, enfin tout ça, etc., c'est vraiment pour l'aider à grandir, quand même. Parce que je rappelle, sur Karate Kid, Will Smith était quand même toujours producteur exécutif avec sa femme, justement, pour toujours avoir un œil sur leur fils Jaden. Là du coup c'est carrément lui qui va tourner avec lui, donc si vous voulez il le lâche pas, quoi. Il n'y a pas un film où Jaden va pas le faire sans son père, donc je trouve ça moi plutôt bien, parce qu'on voit justement ce que peuvent devenir ensuite les enfants stars et les dérives qu'il y a. Il n'y a qu'à voir Justin Bieber en ce moment, cas classique, hein, on fait une crise d'adolescence mec, hein. Donc voilà, donc lui il a son père, donc du coup la relation elle est, voilà, elle se voit, elle pète l'écran, ça c'est clair et net, elle pète l'écran, quoi. Donc ça gère bien, et puis voilà, ce rapport au fait est que ben, les humains de ce moment-là sont les animaux, on va dire, d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on torture des animaux, le monde est hostile, et c'est très dur pour eux d'y survivre. Alors, foutez-vous à leur place et vous voyez ce que ça donne. Et bien, ça donne After Earth. Donc c'est un film de SF pas trop mal, classique.
Est-ce que c'est mieux qu'Oblivion?
Ouais, parce que c'est moins prise de tête qu'Oblivion.
D'accord.
Voilà, donc t'as plus le temps de faire « Waouh, c'est joli ici.
Joli
oh,
ici.
Regarde la jolie plantuche. Ah, elle n'est pas gentille, la plantuche.
Eh non. Et moi, je vais vous parler d'une belle plante verte. Alors, une plante verte.
Tu veux en parler tout de suite de la plante verte?
Pourquoi?
Oh, je pense qu'on va en parler peut-être un peu après. Non, d'abord, on va se faire une petite pause musicale. Quoi,
tu veux te faire une pause musicale?
Ouais, parce que. Elle,
d'accord, c'est vrai parce que t'as beaucoup parlé.
Ouais, non, je me repose là.
Oh, la plantuche.
The winds of fortune don't blow the same. She had to get out and make a change. She had a kid now, but much too young. That baby daddy. She ain't so slow, he said, I'm on a roll with all the girls I know. I know you wanna hit that, I know you wanna hit that, hit that. Oh, I'm just getting with, I say. Consequences are a lot, but hey, that's the way things go.
De retour au CFM.
Donc, alors,
bon, j'étais en train de vous parler d'une magnifique.
Comment ça va, Josiane?
Plante verte. Non, la plante verte, on l'appelle Josiane. En fait, la plante verte, c'est ce qu'on pourrait appeler le film de pseudo-recyclage à la con, ultra référencé, avec un casting qui va faire venir
le
du
film
monde,
casse-gueule.
Ouais, enfin c'est voilà, c'est le voilà. Je vais vous donner une définition du film mainstream. En fait, un film mainstream, c'est un film commercial. C'est comme un titre musical. Il faut respecter une durée. Un titre musical se doit de durer 3 minutes. Un film commercial se doit de durer 1h30. Un titre commercial se doit au moins d'avoir un featuring, c'est-à-dire un invité sur le titre pour faire vendre beaucoup plus de monde et ouvrir le spectre qui fait l'achat de la musique pour augmenter les ventes. Et bien là, c'est pareil. Mais celui du deuxième spectre, c'est Michel Blanc. Donc là, nous obtenons Josiane Balasko qui, potentiellement, n'a plus la capacité d'écrire, n'a plus la capacité de marcher et doit, comme tout le monde, et comme il se doit, tout comme... personne qui doivent respecter, c'est oh, comme quand on passe l'âge et qu'on se rend compte qu'on n'a plus la capacité de conduire sur la route sans être un véritable danger public. Alors ici, c'est exactement pareil, parce qu'il faut maintenant qu'elle laisse la vedette à Marie-Lou Berry, qui d'ailleurs va tourner dans Joséphine, dont on parlera voilà. La semaine prochaine.
Donc ça, c'est pour dire que Romain, il en a marre de Josène Balasco. Voilà. Sinon, demi-sœur, au niveau, plus au niveau de l'histoire de base.
Parce qu'il y a une histoire.
Oui.
Non, il n'y a pas d'histoire. Je suis désolé.
C'est Josène Balasco. Qui...
Non, non. J'ai dit ce que j'avais à dire sur ce film.
Kayate, qui est retardé mental et qui vient de perdre sa mère et qui a vécu toute sa vie avec sa mère. Donc déjà, elle est plutôt âgée quand même pour une retardée mentale. J'ai envie de dire, elle a quand même pété un record parce que des retardés mentaux aussi âgés, j'en ai rarement vu. Et pourtant, j'en ai vu pas mal, croyez-moi. Donc du coup, la seule personne qui est responsable légale qui peut s'en occuper, si vous voulez, c'est son frère qu'elle n'a jamais vu et que lui, il peut pas. Enfin voilà, quoi, il peut pas supporter ça. L'handicap, ça l'insupporte, quoi. Donc du coup, de s'occuper de sa sœur handicapée, c'est vraiment quelque chose qui est très difficile pour lui. Donc du coup, ça a essayé d'être un film, si vous voulez, touchant, émouvant sur la relation entre frère et sœur, sur la relation à l'handicap, sur. Enfin, en gros, ça montre soit c'est tout gentil, soit c'est tout pas gentil.
T'es en train de parler de tolérance et d'handicap, ils auraient pas piqué ça à Intouchable ?
Non, peut-être vite fait, mais on va dire que dans Intouchable, il lui montrait plus dans le quotidien, dans la soin de la personne au quotidien, et donc du coup de la relation proche que tu as avec
elle,
et donc la relation normale que tu as avec elle, donc les relations que moi j'avais avec les personnes handicapées. Là, on est
dans Intouchable, il y avait quelque chose à sauver.
On est plus du côté de la famille, donc du coup de comment on gère l'handicap, comment on le vit, comment on le voit, comment on en parle.
Oui, enfin en même temps entre un psychorigide et puis
ça, au niveau de ce discours-là, c'est très maladroit. L'interprétation de Josène Balasco en tant que retardée mentale, je dirais pas trisomique parce qu'elle a pas.
Parce qu'elle a pas à se forcer.
Il manque quelques symptômes pour lui faire un diagnostic comme ça. Mais bon, bref, elle le travaille bien, ça va. C'est un rôle casse-gueule, mais elle reste dans la
non, ambiance, c'est pas casse-gueule, elle n'a pas à se forcer. Josène Balasco.
Par contre, sur le volet de comment nous on le voit par rapport à une famille, etc., justement par le biais de Michel Blanc, je dirais que là par contre c'est un petit peu plus maladroit et ça perd son contenu et ça montre pas ce que ça voulait montrer.
Non, ça montre rien du tout. Alors évidemment, je laisse la grande porte ouverte pour les gens. Voilà, magnifique bruit fait par notre hôtesse, alias Fabien, voilà, qui est aussi accessoiriste pendant l'émission.
Je crois qu'au moins on peut dire un peu redire un truc par rapport à Josène Balasco, c'est que le Splendid, c'est fini.
Splendid.
Non.
Merci.
C'était joli. Voilà, nous avons Jim Carrey qui était passé dans les studios pour nous faire un petit Splendid, une petite référence à The Mask, on aime beaucoup. Donc j'étais en train de dire qu'on va quand même le laisser aux personnes simplettes qui aiment bien regarder ce genre de film, qui regardent chaque année le soir en ouvrant son portefeuille le concert des Enfoirés, ou encore qui a envie de continuer à voir toujours les mêmes. C'est un peu comme en politique, c'est-à-dire que à partir du moment où on voit toujours les mêmes têtes, on est plus rassuré, on a peur de la nouveauté. Donc là, je trouve que Demi-sœur renoue avec.
Non, si vous voulez voir un truc vraiment touchant, rafraîchissant, allez voir Pop Redemption, pas Demi-sœur.
Ouais. Voilà, mais Demi-sœur, voilà. Dieu sait qu'il y a des fans de Josène Balasco, Dieu sait qu'il y a des fans de Michel Blanc, donc ils vont y aller aussi, quoi. On va les laisser tranquilles.
Voilà, donc bon, on vous laisse, voilà. On vous dit à la semaine prochaine. Et pour résumer un peu la séance d'aujourd'hui, on va vous laisser un petit générique qui ravira les plus nostalgiques.
Dis Cortex, tu veux faire quoi cette nuit ?
La même chose que chaque nuit, Minus. Tenter de conquérir le monde.
C'est Minus et Cortex, c'est Cortex et Minus. L'une est pleine d'astuces, l'autre un vrai nimbus. De souris diaboliques, génie génétique. Quelle canaille, ces petites souris cobayes. Bye, 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 bye. Dans leur tête, elles projettent des plans sur la comète pour partir à la conquête de toute la planète. C'est Cortex et Minus, c'est Minus et Cortex qui ont le réflexe de vouloir sans complexe tendre une souricière à la tête toute entière.